passons à l'économie, parce qu'il y a une étude assez choc de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke qui a secoué le Québec cette semaine. C'est cette étude où on apprend que le Québec est l'un des États les plus imposés, les plus taxés au monde, ben, ou du moins où la charge fiscale y est la plus élevée. A priori, c'est vrai que ça peut être choquant. Moi, je me suis dit que c'était pas, qu'on soit d'accord ou pas avec les taxes, les impôts, là, c'est pas si surprenant que ça, parce que c'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts au Québec, on s'en rend bien compte quand on reçoit nos slips de paye. mais selon moi, ce qui est le nerf de la guerre, dans le fond, c'est de savoir est-ce que les taxes et les impôts qu'on paye sont suffisamment bien gérés. T'sais, est-ce que l'État nous fournit un niveau de service équivalent à ce qu'on paye en taxes et en impôts? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Et ce sont pas tous les économistes là qui s'entendent sur l'interprétation, finalement, de ces données-là. Mon prochain invité est beaucoup plus qualifié que moi pour interpréter ces chiffres. Il s'agit de Pierre Fortin, économiste et professeur émérite à l'UQAM. Bonjour, M. Fortin.
Bonjour.
Alors d'abord, là, juste pour partir sur des bonnes bases, qu'est-ce qu'on entend par la charge fiscale?
Ben, c'est la totalité des impôts qu'on paye en proportion de notre revenu. Au Québec, si on prend les trois niveaux de gouvernement, c'est 37-38% du total de tous les revenus qu'il y a dans l'économie qui sont payés en impôts à Ottawa, Québec et puis à votre municipalité favorite.
OK. Puis la question à 100 piastres, dans le fond, c'est la question que j'ai soulevée en introduction, c'est de savoir est-ce que les services qu'on reçoit de l'État en échange de ces taxes et ces impôts-là sont adéquats,
Dans l'ensemble, absolument oui. Le journaliste du journal a pas fini de lire l'étude. Il a juste lu la première partie. Dans la deuxième partie, l'étude montre qu'on reçoit tellement plus de prestations au Québec qu'on paye d'impôts que la charge fiscale au net, quand on ajoute les impôts, mais on retranche les prestations qu'on paye parce qu'ils nous sont retournés. Mm-hmm. Mais là, on a la charge fiscale nette la plus faible en Amérique du Nord et dans les pays développés. Puis ces prestations-là sont considérables. Si vous voulez, vous pourriez payer à Toronto 75$ par jour pour votre garderie au lieu de 8$ ici. Là-bas, il n'y a pas de congés parentaux étendus, il n'y a pas d'assurance médicaments. Les frais de scolarité à l'université, c'est 6 000$ au lieu de 3 000$. Il n'y a pas de prime au travail comme ici. Les allocations familiales sont plus basses. Leur réseau routier est moins étendu que le nôtre et puis ils n'ont pas de produits culturels autant qu'ici. Puis ils payent l'électricité 2-3 fois plus cher que nous ici. Donc, tous ces biens-là, tous ces services-là, évidemment, ça coûte de l'argent. C'est pour ça que le Québec, puis la population l'appuie d'ailleurs, va chercher plus d'impôts dans les poches des gens. Quand vous demandez aux gens, est-ce que vous préférez une baisse d'impôts ou bien qu'on réinvestisse dans les services publics, les deux tiers disent qu'ils préfèrent qu'on réinvestisse dans les services publics. Ceci dit, vous avez parfaitement raison de dire que si on pouvait, il faudrait réduire la charge fiscale. Par exemple, on pourrait mieux combattre la corruption pour aller en chercher des paradis fiscaux. Et puis, bon, il y a sans doute des dépenses inutiles qu'on pourrait couper.
Alors finalement, quand on se compare, on se console parce que là, on a peu entendu les phrases que vous dites présentement de dire qu'on a la plus basse charge finalement.
Ouais, c'est ça.
Mais souvent, on se compare ou en tout cas, il y a des comparaisons qui se font avec, par exemple, la Scandinavie, etc. Est-ce qu'on c'est comparable ce qu'on paie chez nous avec oui la Scandinavie. J'ai vu
niveau de service.
Ouais, au niveau du service.
Bien sûr. Service. Mais on reçoit moins de services que les Scandinaves. On paie moins d'impôts qu'eux. Mettons, c'est 37% de tous les revenus qui sont payés aux trois niveaux de gouvernement en impôts. Mm-hmm. Mais chez eux, c'est quelque chose comme 42-43%. Donc, ils en font un peu plus que nous de services publics, par exemple.
Alors finalement, les Québécois, il y a toujours comme des articles chocs comme ça, avec des titres comme
ça. C'est ça. Mais c'est parce que le journaliste ou la journaliste, je ne me rappelle plus là, qui a écrit ça, ben il a pas pris la peine de lire l'étude de l'Université de Sherbrooke jusqu'au bout. Je veux dire, c'est vraiment le foyer de recherche le plus important qu'on a au Québec en domaine des finances publiques. C'est ça qu'ils disent. Alors, d'un côté, en Amérique du Nord, oui, parce que c'est très conservateur en Amérique du Nord. Le Québec ressort de ça comme étant, comme donnant à ses citoyens le plus grand, la plus grande quantité de services publics. Mais par contre, si on se regarde dans l'ensemble de tous les pays, là où on prend l'Europe, l'Asie, les pays plus avancés, on est à peu près dans le milieu du peloton. On n'est pas excessif comme les Scandinaves en particulier dont vous parlez. Mais au Danemark, par exemple, c'est 42-43%. En France, c'est 45%, je pense.
Mais c'est drôle d'ailleurs parce que je regardais la France, puis il y a même des gens qui disent que le soulèvement populaire que la France est en train de vivre, le mouvement des Gilets jaunes, là, est un peu causé par cette charge fiscale-là qui est ses contribuables. Puis moi, je regardais ça, puis je me disais, pour y être allé un peu en France, il semble y avoir de la criminalité, il semble y avoir des...
C'est la bougie d'allumage du mouvement des Gilets jaunes en France, la fiscalité. Mais même pas la fiscalité, c'est le fait que le premier ministre a décidé, le président Macron a décidé d'augmenter la taxe sur l'essence. Mais le vrai problème de fond en France, c'est juste la bougie d'allumage. Le vrai problème de fond en France, c'est l'énorme différence de revenus qu'il y a entre Paris d'un côté, la région parisienne, et le reste de la France. Les Français à Paris, au total, leur revenu disponible est 25% plus élevé que dans le reste de la France. Puis alors, à un moment donné, les gens dans le reste de la France disent, mais c'est quoi cette affaire-là? Les élites à Paris, ils sont-ils en train de nous fourrer? Passez-moi l'expression. Puis là, ça commence à gueuler. Puis là, ils ont réduit les impôts sur les entreprises. Puis là, ils viennent d'augmenter les taxes sur l'essence. Alors là, il y a une révolte populaire là qui est en... Et puis en fait, la révolte populaire n'est pas seulement en France non plus. Le Brexit en Angleterre, qui est le référendum qu'ils ont eu pour sortir de l'Union européenne, ben là, ça a passé. Les gens ont voté pour sortir de l'Union européenne, justement, parce que ils commencent à être opposés à toutes les politiques qui sont perçues comme étant des politiques... développé par les élites pour favoriser leurs propres amis. Donc, il y a un mouvement qui est assez étendu dans plusieurs pays, même aux États-Unis. Pourquoi les gens ont voté pour Trump? Ils pensaient pas que ça serait aussi fou comme administration, mais ils ont voté pour Trump pour protester contre l'élite politique traditionnelle aux États-Unis. Donc, il y a des mouvements comme ça un peu partout, et pas seulement en France, là, qui se sont développés.
Merci, M. Fortin, d'avoir pris du temps pour nous ce matin.
Excusez-moi d'avoir été si long, mais c'est bien agréable. Merci.
Merci, au revoir.
Merci à vous, Pierre Fortin, économiste et professeur émérite.